Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime.
Politique avec Philippe-Vincent Foisier et Antoine Robitaille. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour le déstabilisant.
Ah, c'est ça, là, c'est moi ça. Avec deux Advil, ça passe. Enquête publique réclamée par l'opposition à Québec.
Ah oui, puis ils vont faire front commun. C'est ça qu'il y a de nouveau, parce que tu sais, ça fait à peu près 10 mois là, qu'ils réclament une enquête publique. Puis à chaque nouveau rapport, il y a de nouvelles demandes qui sont faites. On se souvient du rapport de la protectrice du citoyen, donc qui disait que finalement, les vieux avaient été abandonnés, hein, carrément. Là, il y a des nouveaux courriels qui font surface. C'est Radio-Canada qui a mis la main là-dessus, des courriels inédits qui révèlent que des gestionnaires d'établissements avaient alerté le gouvernement bien avant le drame. Et là, c'est clairement écrit à l'aide, tu sais, faites quelque chose. Les partis d'opposition, évidemment, sont en furie. Dominique Anglade a même dit que le gouvernement a fait de l'aveuglement volontaire pendant la première vague. Alors, il y a une demande commune là, qui va être faite. Il y a un point de presse à 12h30 actuellement, au moment où on se parle. Donc, juste avant la période de questions, qui est à 14h aujourd'hui, et ils vont faire front commun, là, il y a Vincent Marissal, Joël Arsenault, puis Dominique Anglade qui vont faire un point là-dessus.
Ça vise quoi, le gouvernement ou la santé publique? Le ministère de la Santé
Une enquête publique, ça vise tout, là. Ils veulent vraiment comprendre ce qui s'est passé. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois insistait tout à l'heure pour dire que, par exemple, quand il y a eu le drame de la fillette de Granby, on a fait une commission d'enquête pour repenser l'ensemble là, de la protection de la jeunesse, puis ça a donné lieu à un projet de loi.
Ouais.
Et là, il n'y a pas de commission d'enquête pour une hécatombe dans les CHSLD. C'est inexplicable. C'est sûr qu'il y a plusieurs enquêtes en cours, là, puis déjà, la protectrice du citoyen a déposé un rapport qui était assez concluant. Et parfois, je me demande qu'est-ce qu'on veut apprendre de plus. Mais vous savez que moi, j'ai toujours été sceptique là-dessus. Je sais que Philippe-Vincent est plus crinqué que moi de la commission.
Ouvert, de façon générale. Mais c'est plus, de façon plus générale, je pense qu'à un moment donné, va falloir que comme nation, on regarde ce qui s'est passé puis on apprenne de ce qui s'est passé. Les CHSLD, ça a été l'angle mort, mais comment ça se fait que la santé publique n'est pas prête? L'équipement de protection, il y a quand même énormément de questions encore qui sont en suspens. Ceci dit, là, ce qu'on voit, c'est une façon aussi de faire des points politiques. C'est une façon de ramener ça dans la face de François Legault. C'est une façon de continuer de discuter de ce qui va mal et de ce... là où la CAQ a de la difficulté. La CAQ a de la difficulté, notamment dans sa gestion des CHSLD.
Opposition, je sais que comme opposition, il faut toujours que tu ailles très loin, là, mais es-tu obligé d'aller aussi loin que les oppositions le font? Moi, je pense qu'ils minent leur propre critique, tu sais, en disant que
quand tu crées au loup, là.
Volontaire,
mais c'est ça, mais
ça voudrait dire que M. Legault et le comité qui gérait à ce moment-là la pandémie, là, ils se frottaient les mains, disaient non, regarde pas de ce côté-là, là. Voyons donc.
Tu demandes une enquête publique.
Il y a un complotiste comme ça dans notre société, sacrifice. Tu sais, y a-tu moyen que les oppositions soient responsables?
Non, puis tu demandes une enquête publique en disant il y a eu de l'aveuglement volontaire, faut que tout le monde le sache. Là, on fait une enquête publique pourquoi? Pour avoir les conclusions de l'opposition ou pour vraiment qu'on sache ce qui s'est passé?
Déjà,
à un moment donné...
Déjà
t'as le coroner. Où est-ce qu'on a appris? Où est-ce qu'on a appris ça? Où est-ce que les courriels ont été coulés? Là? C'est dans l'enquête du coroner. Donc, il y a des enquêtes qui ont lieu actuellement.
Puis déjà, on nourrit le monde avec de la sauce brune. Comment peux-tu accabler davantage les gens en CHSLD? T'sais, on leur donne pas de chance.
Oui. Il y a des questions qui ont été posées à Dominique Anglade là-dessus sur la réforme Barrette. Est-ce qu'on doit défaire la réforme Barrette pour ce qui est de la bouffe texturée?
Oui.
Elle marchait comme sur un fil de fer.
Ouais, ben,
mais c'était beau les images. C'était beau les images ce matin de Gaétan Barrette qui goûtait à sa bouffe, assis à côté de Marie Montpetit. Ils étaient à la même table à l'époque lors de l'annonce de ce manger mou texturé en nouvelle saveur et tout le monde semblait très content à l'époque d'être ensemble. Et je sais pas, avais-tu participé toi Antoine? Moi je me souviens que j'y avais été, j'avais parlé à Benoît à l'époque après la
dégustation.
T'étais
allé? Ah non, moi j'étais pas allé malheureusement.
Oui, on m'avait envoyé là. Oui, voilà.
Donc,
j'avais dit,
il me semble,
ça goûte ce que ça devait goûter. Ouais, c'est ça. Ça goûte ce que ça devait goûter. Ouais. C'était ça ma critique culinaire.
Il parlait, il était repu. Il rotait en deux fois.
Par contre, non.
Oh, c'est trop bon. J'en ai pris deux fois.
Non.
Stade de baseball.
Mais là, Dominique Anglade est allé loin, mais je trouve que c'était plus justifié.
Bon.
C'était sur l'investissement là, en argent public dans la construction d'un stade de baseball à Montréal. Bon, toutes les oppositions disent que c'est complètement fou. Dominique Anglade a dit ce qui suit, on l'écoute.
Montréal, c'est une ville de sport, puis on serait très tous contents d'avoir du baseball pour Montréal. Mais la réalité, c'est que le gouvernement devrait avoir vraiment d'autres priorités par rapport à ça. Et, quand je lis qu'on nous dit ça va être un coup nul pour les Québécois, je dis ça, on prend les gens pour des cons quand on dit ça. Là. La réalité, c'est que ces investissements-là, là, ils coûtent de l'argent aux contribuables.
On parle de 300 millions, hein?
Oui. Mm. Puis là, il y a une motion qui va être déposée par Québec solidaire. Elle n'est pas encore acceptée par tous les partis, mais Québec solidaire demande au gouvernement du Québec de ne financer ni la venue d'une équipe professionnelle de baseball à Montréal, ni la construction d'un nouveau stade, tant et aussi longtemps que, écoutez bien, l'ensemble des services publics québécois ne seront pas financés adéquatement, que les besoins de main-d'œuvre n'y seront pas pleinement comblés, et que tous les Québécois et Québécoises n'auront pas accès dans un délai raisonnable à l'ensemble des services publics auxquels ils croient.
Et tant que Québec solidaire ne formera pas le prochain gouvernement.
Non, mais tu sais, des fois, dans l'opposition, tu proposes des affaires, ça marche. Parle-en à Véronique Yvon.
Ouais.
Et moi, j'ai Marois Risky tout à l'heure, donc du Parti libéral à la haut sur la colline, qui va faire le lien, elle, entre les Bronfman et les paradis fiscaux.
Ah, ben c'est drôle, nous, on l'a appelé, puis elle pouvait pas. On l'a appelé ce matin parce que les Bronfman, là, Steven, il vaut 3 milliards.
Puis il y a une petite caisse aux îles Caïmans.
Ah oui, puis est-ce qu'on fait la charité aux riches, encore une fois?
C'est ça.
C'est bien, ça. 6 millions de dollars dans les CPE, hein? C'est la différence.
C'est ça. Non, mais tu sais, il demande 300 millions, qu'il en donne 2,94 à Bronfman, puis qu'il en garde 6 pour les CPE. C'est de l'argent en tabarouette, ben oui. Là. Puis pendant ce temps-là, on a encore des journées de grève.
À coup nul.
Anna va mieux.
Ça va être à coup nul.
Vincent, est-ce qu'Anna va mieux?
Elle est avec sa grand-mère aujourd'hui.
Ah bon,
que
parfait.
Je salue et que je remercie.
Mais j'aimerais bien qu'elle participe à notre trio.
Ben oui,
hein?
Ouais, oui, ça se battu une fois de temps en temps. Il ne faut pas la surexposer non plus. Là.
Non, il faut qu'elle écoute Radio-Canada un petit peu aussi, là, c'est pour qu'elle se fasse une idée de ce qui est bon et ce qui est moins bon. Gaffe de Claire Samson.
Écoute, ça, c'est très drôle, parce que la semaine dernière, Claire Samson s'était fâchée en chambre, avait déposé une plainte même au président. Elle avait dit, écoutez, là, il y a un processus actuellement de nomination du prochain patron de la Sûreté du Québec, puis je suis pas invité, puis ça a aucun bon sens. Et finalement, elle a été invitée après cette plainte-là, puis elle a dévoilé le nom de la candidate.
C'est bon,
Alexandre Robillard qui est en entrevue. Puis Robillard, il a dit, ben là, c'est parce que c'est pas confidentiel, ça. Là. Elle a dit, oh, pardon, je me suis échappé, je m'excuse. Alors, on comprend peut-être pourquoi on ne voulait pas inviter Claire Samson. Alors, la candidate en question, c'est Mme Beausoleil.
Ah ben, quelle surprise.
Parfait. Ben oui, okay. T'es déjà là, ça fait que ça va être pratique.
Ben, elle va poser une transférée.
Mais au moins, c'est une nomination de tous les partis.
Gouvernement Trudeau, pendant ce temps, a fait de Vincent. On cherche Justin ces temps-ci.
Oui. Il va peut-être être demain la période de questions du premier ministre. Techniquement, il devrait répondre aux questions. Il va quand même y en avoir beaucoup, notamment sur la gestion de la pandémie, parce que il y a comme deux critiques là, qu'on entend énormément ces temps-ci sur les tests rapides. Là, on l'avait dit, il va y avoir des tests rapides, le variant Omicron, il y a des craintes. Dès que vous allez revenir au pays, il va y avoir des tests rapides. Puis on se dit, bon, OK, d'accord, ça va peut-être prendre une semaine ou deux, mettre ça en place, surtout qu'on l'avait déjà fait dans les 4 plus grands aéroports du pays. Là. Souviens-toi qu'on avait pas mal tout fermé, sauf 4 aéroports. On avait centralisé les tests. On se disait, bon, on l'a fait. On devrait être en mesure de le remettre en place. Ça devrait pas être si compliqué que ça. Finalement, énorme confusion. Le personnel sait pas trop. Les voyageurs savent pas trop. Il y a des dépistages aléatoires. C'est pas clair s'il faut faire la quarantaine à la maison, si on va envoyer les tests à la maison. Donc, il y a ce problème-là. Et l'autre, c'est les voyageurs qui reviennent d'Afrique du Sud, qui se plaignent que les quarantaines à l'hôtel obligatoires, ça ressemble un peu à une prison. Là. C'est tout croche.
À travers le Canada, hein?
Oui, à travers le Canada. Donc, on a comme remis quelque chose en place sans nécessairement avoir l'infrastructure, sans nécessairement avoir les services. Et là, les gens disent, ben d'abord, vous fermez l'espace aérien et vous nous forcez à avoir cette quarantaine-là. Alors que oui, bon, il y a plus de ce variant-là dans le pays, mais il y en a ailleurs dans le monde et ce sont nous qui payons. Vous donnez pas les mesures adéquates, vous nous donnez pas les services adéquats. Alors, il y a quand même énormément de critiques. Ça, là-dessus, l'opposition va retaper sur ce clou-là aujourd'hui à la Chambre des communes.
Ouais.
Ceci dit, il y a quand même un appui important dans la population. Il y a un sondage léger qui a été publié qui montre qu'à peu près 80% de la population est d'accord pour qu'on ferme les voyages avec certains pays où il y a une plus grande prévalence d'Omicron.
Mais dans le Globe and Mail ce matin, là, il racontait des familles ou des gens là, qui avaient des petits-enfants. Là, il n'y avait pas de couche où il y avait la c'est bouffe ça. Était dégueulasse. Puis là, ça, c'est au Hilton, puis c'est des hôtels à travers le Canada.
Non, mais c'est un gros problème. On l'avait eu, cette critique-là, à l'époque des quarantaines obligatoires à l'hôtel.
Mmh.
Il y avait eu deux cas, je pense, d'agression ou de vol. Donc, on avait mis en place une grosse structure importante. Là. C'est gros quand même, même s'il n'y avait pas énormément de voyageurs. Là, il y en a beaucoup plus. En plus, donc, d'avoir cette quarantaine obligatoire tout croche, c'est tout croche à l'arrivée aux aéroports. Et là, ceux et celles qui partent, sachez que c'est pas clair encore si vous allez revenir, allez-vous être testé. Si vous êtes testé, ça va prendre combien de temps d'avoir les résultats. Alors, disons que M. Duclos, lui, agit vite. La machine ne le suit pas. Le ministère des Transports avec Omar El Gabra non plus. Là-dessus, il va falloir que le gouvernement se ressaisisse.
Après ça, ça veut fixer des règles puis des critères pour la gestion des CHSLD.
C'est ça.
Ils sont même pas capables de gèrer les aéroports.
Non, mais ils gèrent pas, eux autres. Eux autres, ils mettent des critères.
Ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Ils sont bien bons.
Et c'est Valérie Plante qui apporte les brochures.
Oui, c'est ça. À l'époque, hein, on se souvient.
Tantôt, vous vous demandiez ce que faisait Justin Trudeau, mais on le sait, ce qu'il fait.
Il fait quoi?
Il continue. Il continue toujours de continuer.
Continue. Et avant qu'on se quitte, un mot sur ces quatre conservateurs.
Oui. Ben, on se posait la question, qui n'est pas vacciné au Parti conservateur? Et là, on a resserré un peu les règles. On accepte uniquement des exemptions qui sont liées à 6 cas qui sont reconnus par l'Ontario, là, par la santé publique de l'Ontario, comme étant de véritables exemptions pour ne pas recevoir le vaccin. Donc, si on a une de ces 6 exemptions-là, on peut venir à la Chambre des communes quand même si on n'est pas vacciné. Et là, il y a 4 conservateurs qui, eux, sont en Zoom, donc en format hybride depuis déjà quelques jours, depuis qu'on a mis en place ces nouvelles règles-là, alors que les conservateurs disent, nous, le format hybride, on n'en veut pas, on le veut pas. Et Erin O'Toole refuse de confirmer que ces 4-là ne sont pas vaccinés. On parle ici de Ted Falk, de Cathy Wagenthal, Dean Allison et Colin Carey. Il y a juste Mme Wagenthal qui a confirmé qu'elle avait une exemption, mais c'était pas une des 6 exemptions, c'en était une autre. Et là, ben, il y en a beaucoup dans les autres partis qui disent les statistiques au Parti conservateur sont particulières. Hein, parce qu'il y a, mettons, 1% de la population qui pourrait avoir une des 6 exemptions médicales. Ça voudrait dire sur 100 députés, 1, peut-être 2. Là, on est au moins à 4 qui n'ont pas une exemption qui est reconnue par la santé publique ontarienne. Alors, disons que là-dessus, puis, M. O'Toole ne s'en sort toujours.
Être conservateur, est-ce que ça fait partie des exemptions?
Non.
Okay.
Non, c'est médical.
Okay.
Benoît, c'est pas un problème médical d'être conservateur. Okay. Ça arrive. Il y en a beaucoup au pays.
Puis, merci de le préciser. Il y a des fois que j'oublie. Merci, M. Foisier, M. Robitaille. À demain.
Salut. Au revoir.